Nous méditons, vous le savez, cette année, sur les vertus. Et acquérir les vertus, c'est aussi important pour l'être humain que pour une vache acquérir de l'herbe. Tu prives la vache d'herbe, elle meurt. Et tu prives l'homme de sa nourriture principale, les vertus. Il n'y a plus d'humanité en lui. C'est l'humanité qui va mourir. L'humanité meurt parce qu'il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de qualité humaine. Alors on a beau faire des organisations non gouvernementales, n'est-ce pas, pour aller au secours de l'homme, s'il n'y a pas de vertu, on ne porte aucun secours. C'est extraordinaire, ça. Voilà. Et donc, ces vertus, c'est quand même très, très extraordinaire, vous voyez. C'est aujourd'hui, nous sommes encore dans le cadre de la première des vertus cardinales, la vertu de tempérance. La vertu de tempérance qui fait que notre humanité reste jeune et qu'il y a quelque chose de splendide dans l'humanité, dans nos relations avec nous-mêmes, avec le prochain, avec Dieu, avec l'univers. Quelque chose de jeune. C'est grâce à la vertu de tempérance. Quand un monde devient vieux, c'est qu'il n'y a plus de vertu de tempérance. Et se flétrit. Il y a des rides. La vieille fille, le vieux garçon. Ça, c'est vieux. C'est vieux. C'est très vieux. Et dans le vieux, on ne peut pas mettre du neuf. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Dans du vieux, tu ne peux pas mettre du neuf. S'il n'y a pas de vertu de tempérance, tu ne peux pas mettre la... Tu ne peux pas faire naître l'humain. La jeunesse, toujours nouvelle, de l'unité de la chair, du sang, de la lumière, de l'âme et de l'esprit, ne peut pas apparaître. Parce que c'est ça, ce qui apparaît au bout de la tige, de l'épi, c'est ce blé, cette communion rajeunissante, cette multiplication de la jeunesse, qui donne 60 pour un, tout le temps. Et il faut cultiver, bien sûr, le champ des vertus. Sinon, il n'y a pas cette multiplication de l'épi. Et c'est sûr que celui qui est vieux, il dit, non, c'est le vieux qui est bon. Celui qui est vieux, celui qui n'a pas la vertu de tempérance. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de tempérance, de modestie, de chasteté, de virginité, d'innocence, de mode. Non, c'est l'ancien qui est bon. Cette histoire de, c'est un peu, ça paraît quelquefois énigmatique, hein, les paroles du Christ, hein, mais elles sont pas si énigmatiques que ça. Hein. Si tu prends effectivement, si tu prends du un tissu neuf et que tu t'en sers pour faire une pétasse sur un truc qui est vieux, c'est évident. Moi, je sais que j'y ai passé plus de 2 ans, et j'y passais environ 1 heure par jour, sans arrêt, à pétasser mon habit. Ça déchirait tout le temps. À la fin, les gens pensaient que j'avais couvert mon habit de fromage. Et oui, parce que si vous mettez un tissu neuf et puis vous pétassez, ça tire, ça déchire de tous les côtés. Voilà. Alors, évidemment, j'avais un habit très original. À la fin, il y avait plus de pétasses que d'originel, vous voyez. Ah, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'il y a eu des généreux donateurs qui ont donné de l'argent pour qu'on achète, toute la communauté puisse avoir des habits. Comme quoi, toute chose, à tout malheur, il y a quelque chose de bon. Donc aujourd'hui, simplement, au niveau de la tempérance, la tempérance, c'est quelque chose qui fait que
qui fait que tout va être toujours renouvelé. Le renouvellement qui vient de cette qualité extraordinaire qui tempère, j'allais dire, la division de l'homme avec lui-même, la division avec son prochain, la division avec Dieu, la division avec l'univers. Toutes ces divisions sont tempérées pour qu'il y ait une très grande unité, une harmonie. C'est cette harmonie qui permet précisément ce renouvellement continuel. C'est la tempérance qui fait ça. Évidemment, pour ça, la tempérance va faire que la qualité donc de notre sensibilité profonde, de notre sensibilité immédiate, ne seront pas provocantes. Tandis qu'évidemment, quand il n'y a pas la tempérance, les qualités, enfin, ou les caractéristiques de notre sensibilité immédiate sont provocantes, sont barbares, sont grossières. Elles sont pas. Et elles sont impudiques, vous voyez. Et justement, la tempérance va faire que les qualités de notre sensibilité va être tempérée pour qu'il y ait une très grande intensité, une très grande concentration. Une très grande concentration sensible. Il n'y aura pas de dispersion. Ça, c'est la tempérance qui fait ça, qui contient continence, qui contient tout. On avait vu, n'est-ce pas, cela. Et on avait vu que dans la tempérance, dans cette qualité qu'il faut acquérir grâce aux 20 vertus de la tempérance que nous avons vues, il faut voir qu'il y a une élévation qui s'opère. Et cette élévation, c'est ce qu'on avait vu beaucoup la dernière fois. On avait vu essentiellement ça, qu'il y a différents niveaux à la qualité à la qualité du cœur, à la qualité sensible, à notre passion spirituelle, à notre union physique avec Dieu, avec le prochain, avec l'univers et avec nous-mêmes. Il y a une élévation qui se fait. La sensibilité devient de plus en plus sensible, notre corps devient de plus en plus physique. C'est pour ça d'ailleurs que ça implique la tempérance, ça va provoquer la splendeur, la beauté, l'éclat, quelque chose d'éclatant. Et effectivement, ça va éclater dans quelque chose de toujours plus sensible, mais en même temps toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus profond. Et c'est pour ça que vous voyez, dans toutes les vertus, il y a dans toutes les vertus humaines, il y a une ascension qui s'opère en même temps qu'un très grand enfouissement, une très grande incarnation, et en même temps une très grande ascension. Ça va ensemble. C'est comme ça que l'homme, à la différence de la vache et à la différence de l'ange, devient le roi fraternel de l'univers. Parce que il va unir, contenir le plus enfoui et le plus haut. Et c'est les vertus qui font ça. Les anges n'ont pas de vertu. Saint Michel Archange n'a pas de vertu. Pour avoir des vertus, il faut poser beaucoup d'actes dans le temps. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'investir. Il faut pousser. Il faut qu'il y ait des actes continuels. La force de mettre une goutte, puis une autre goutte, puis une troisième goutte, le lit du torrent va se... Et il va y avoir cet enfouissement, cet approfondissement, cette élévation en même temps. Et donc ça, nous l'avions vu. Et il faut voir toujours les trois grands niveaux des vertus. Bien sûr, nous avons des fêlures. Les trois grands niveaux, c'est ça. Pour toutes les vertus, nous avons des grandes fêlures. On a des grandes fêlures, on a des grandes pauvretés, on a des grandes misères, on a un orgueil incroyable, vous voyez. On a une impuissance terrible, un dégoût profond de la vie. Vous voyez, le monde nous dégoûte. On a des fêlures, vraiment, on est déçu, on a des déceptions, il y a des trahisons, il y a des limites, il y a des maladies, il y a le péché. On n'y arrive pas. Entre, même si tout ça c'est très beau, on peut pas, on n'a pas la force. On n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut donc. C'est le premier grand combat, quoi. C'est le premier grand combat de l'être humain. Quand il veut aimer, quand il veut être dans la lumière, quand il veut être lui-même, c'est qu'il faut qu'il accepte d'être dans ces limites-là, dans ces souffrances, dans ces fêlures, dans ces misères, quoi. Et c'est à partir de ces misères qu'il va dire oui à quelque chose qui va se servir de ces misères pour apparaître. Et c'est les vertus qui vont apparaître dès lors qu'il y a l'acceptation de nos fêlures. L'acceptation de notre petitesse, l'acceptation de notre pauvreté. C'est le premier grand niveau des vertus, ça. Il faut lutter dans la confiance, en sachant que c'est gagné. Parce que l'être humain est comme ça. Il est lié à la finalité. Et à la fin, il a la victoire. C'est lui qui règne. Au ciel et sur la terre. C'est le roi fraternel de l'univers. Si je vous dis, c'est la différence entre la vache et l'ange. Et la différence entre la vache et l'ange, c'est que l'ange, du coup, est jaloux de l'être humain, tandis que la vache n'est pas jalouse. C'est pour ça qu'il y a eu des démons. Ils ont dit non. On est quand même supérieur à ces espèces de sots.
Ils sont jaloux de l'autre, quand même.
Ils sont jaloux.
De l'autre.
Oui, ils sont jaloux de ça. On est supérieur tout de même. Et ces sots vont être les rois fraternels de l'univers. Oui, pourquoi? Parce qu'ils vont pratiquer les vertus héroïques. Héroïquement, ils vont pratiquer les vertus. Héroïquement, continuellement, à chaque instant, dès qu'ils peuvent. Et c'est en plus à partir de leur petitesse. Et c'est pour ça que finalement, dans la vertu... Alors, c'est le premier... niveau, il y a donc trois grands étages, trois grands niveaux. La respiration dans l'ordre, la respiration du blé, vous voyez, qui pousse, qui prend le soleil, qui prend l'eau, qui prend les éléments de la terre, vous voyez. Donc il faut prendre les éléments de la terre. Il faut l'eau, ah oui, l'eau. Il y a un deuxième niveau dans les vertus, c'est que les vertus poussent, elles poussent parce qu'elles sont alimentées par l'amour. Parce que c'est l'amour spirituel. Hein. C'est l'amour spirituel, c'est l'amour vraiment du cœur profond. Quoi. C'est l'amour vrai, l'amour contemplatif qui nourrit les vertus. C'est l'eau. Et cet amour vient d'ailleurs que de nos pauvretés, d'ailleurs que de notre monde qui est limité et pauvre, d'ailleurs. Que du tout. Il vient de Dieu. Et il va vers Dieu. Donc il est alimenté par une attraction qui va au-delà de ce monde et qui vient d'avant ce monde. Et ça s'est inscrit dans nos pauvretés. C'est dedans nos pauvretés. C'est dedans nos manques de vertu. Vous voyez, c'est l'hydrogène et l'oxygène qui se rassemblent, l'alpha et l'oméga, qui se rassemblent et qui font l'eau des vertus. C'est extraordinaire, ça. C'est fantastique, ça. C'est quelque chose de très, très beau. Il y a un deuxième niveau de vertu. C'est que c'est alimenté par l'amour. Alimenté par l'amour. Vous voyez ça? Le troisième, c'est pour ça que, d'ailleurs, il va y avoir quelque chose de virginal. Vous voyez, on l'a dit dans la vertu de tempérance. La vertu de virginité va apparaître. Elle va se nourrir de la chasteté parfaite. La chasteté parfaite, la chasteté relative, ça appartient au premier niveau des vœux. De la vertu de tempérance. On avait vu ça la dernière fois. Mais alors il y a un troisième qui est un degré tout à fait divin, parce que dès lors qu'on est en contact avec Dieu, qu'on vit de cet amour qui vient de Dieu, et qui est spirituel, et qui est permanent, qui ne cesse de s'intensifier, automatiquement, à un moment donné, on est réceptif à la vie divine, à la grâce sanctifiante, à Jésus, à l'Esprit Saint. Qui est envoyé, et donc à tout ce qui fait qu'on rentre dans les racines d'une autre terre. C'est ça, le vêtement neuf. Et qu'on quitte la terre du péché pour rentrer dans la terre de la victoire, la résurrection. Et du coup, on rentre dans l'attraction véhémente qui fait que nos vertus sont en connexion avec l'intimité vivante de Dieu d'avant la création du monde, avec les attributs divins. Et on est attiré par le Père. On a l'amour du Père, la soif d'amour. Et on avait terminé là-dessus la dernière fois en disant, voyez, au fond, dans l'esprit de virginité qui est le conseil évangélique de Jésus qui dévoile le monde nouveau, dans le monde ancien dans lequel nous sommes, il dévoile qu'il y a une virginité en lui qui est une virginité de miséricorde. Il est l'agneau de Dieu, il y a une virginité qui vient de son unité totale avec nous, puisque si nous sommes les rois fraternels de l'univers, lui, il est le roi du ciel, et la royauté du ciel va se marier avec le royaume de la terre qui est en nous. Et il va y avoir un mariage, une complémentarité. C'est le Christ. Et donc il y a une compassion, il y a une affinité. Il y a une affinité dans la virginité de Dieu et la virginité de l'homme et de la femme et de l'enfant. Et cette virginité, attention, elle est toujours là. Hein. On peut perdre sa virginité, je suis tout à fait d'accord, mais on peut la retrouver dans le Christ. On peut la retrouver, c'est sponsal, si vous voulez, la virginité. Et ça, c'est le mystère de compassion qui permet une recréation de notre virginité physique, hein. Physique, psychologique, spirituelle et éternelle. Et enfin, il y a un troisième moment, c'est Dieu, Jésus, c'est l'agneau, Jésus, c'est l'époux. Mais Jésus aussi, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Et donc il est dans sa sensibilité humaine, Jésus, au-delà de la compassion et de la miséricorde, il est attiré par le Père. Avec la même... C'est Dieu, il est Dieu, donc il n'y a que Dieu qui l'attire, dans sa sensibilité humaine. Et c'est les trois grandes choses qui vont pousser en nous. Et cette véhémence de l'amour, de l'attraction de Dieu le Père sur la sensibilité du Fils dans l'humain, va être tempérée dans le Christ. Il y a une tempérance, voyez, qui est virginale et qui est totale. C'est pour ça que vraiment, c'est contient tout. Quoi. Vous voyez, ça, on avait vu ça. Et Marie, donc, a été en communion, vraiment. En communion totale avec cette tempérance de Jésus. Cette tempérance infuse, cette virginité. La virginité de l'agneau, la virginité de l'époux, la virginité du Fils. C'est les trois grands niveaux, vous voyez. Les trois grands niveaux. Alors, dans cette tempérance, évidemment, on dirait, c'est tout assez, c'est magnifique. Moi, je veux rentrer dans l'esprit de virginité évangélique. Puisque je veux voir Dieu. Oui, je veux voir Dieu. Mais pour voir Dieu, il faut acquérir les fameuses vertus du Christ, les vertus chrétiennes, les vertus humaines et les vertus fondamentales. Et on va se rendre compte que c'est quand même l'agneau vit cette virginité dans sa pauvreté, dans une miséricorde incroyable, puisque il va porter l'iniquité du monde, c'est l'agneau de Dieu. C'est virginal, vous voyez, c'est de la tempérance parce que je suis obligé, quand je porte l'iniquité du monde, d'aller au-delà. Je ne peux pas avoir de communion sensible avec ce monde-ci. Parce que ce monde sensible n'est pas tempéré, il n'est pas continent, il n'est pas pur. Donc il faut que ma sensibilité se saisisse elle-même et porte l'iniquité du monde. Il faut dépasser notre sensibilité par rapport à ce monde-ci. Il faut se détacher. Pour que notre sensibilité soit attachée au monde pur, à ce qu'il y a de plus pur dans la création, à ce qu'il y a de plus pur dans la matière, à ce qu'il y a de plus pur dans le corps, à ce qu'il y a de plus pur dans la chair, dans le sang, dans la lumière, dans l'esprit, dans l'unité de l'homme et de la femme. Et donc il faut se détacher, donc je vais porter l'iniquité, je vais souffrir de l'iniquité du monde. Voilà, je suis l'agneau de Dieu. Il porte l'iniquité du monde. C'est sa manière de faire miséricorde. Vous allez au-delà de ce qui est sensible, il ne juge pas. Il le porte. En allant au-delà de ce qui est sensible. Et du coup, toute sa sensibilité est rassemblée dans le mystère de la croix, voyez, la passion. Et c'est dans une pauvreté, ça. La virginité et la pauvreté vont ensemble. La virginité de l'époux, c'est regarder comment le Verbe de Dieu qui se lie, le Verbe de Dieu, le Christ, quoi, quand il est mort sur la croix, bon, il est sa virginité. Vous comprenez bien que la virginité de Jésus crucifié fait qu'il s'est complètement effacé. C'est une virginité d'effacement, c'est une virginité de compassion. Et quand on parle de compassion dans le Christ, vous voyez, c'est beaucoup plus profond que la miséricorde. C'est que il va vivre au-dedans de nous, de sa divinité. Vous voyez, la virginité de son cœur est si grande qu'il va s'ouvrir pour s'établir dans nos pauvretés, dans nos impuretés, dans nos péchés, dans nos misères. Et donc il va y avoir une réponse, une complémentarité, une infinité entre la compassion virginale du Christ, le Verbe de Dieu, et ça va aboutir à quoi ? À la transverbération. En nous, nous qui sommes pauvres, dans nos pauvretés, le Verbe de Dieu va nous porter. Et pour ça, il faut que le Christ soit arraché au monde sensible de son corps, par la mort. Ça va beaucoup plus loin que la miséricorde. Et du coup, il y a pour nous une œuvre d'affinité avec le Christ qui est totale. Et on va faire la même œuvre que le Christ, en allant plus loin que le Christ. Parce que le Christ, lui, ne peut pas offrir sa mort, puisque précisément, il a arraché son âme hors de son corps pour pouvoir nous donner sa divinité. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la vie contemplative, virginale de la foi chrétienne. C'est qu'il ne peut pas offrir la blessure du cœur, il est mort. Il ne peut pas offrir la dernière goutte d'eau, la dernière goutte de sang. Il ne peut pas offrir le grand sabbat. Toute l'écriture a été dite, il faut offrir le grand sabbat. Il ne peut pas. Il est mort. Et donc, nous allons offrir ce qu'il y a de plus grand dans le mystère de la compassion du Christ. Et donc, il y a une œuvre d'égalité dans la passion du Christ, entre le Christ et nous. Marie a vécu pleinement de ça, elle est médiatrice. Hein. C'est une affinité, vous voyez, on appelle ça une grâce d'affinité. On est surélevé à un niveau divin pour la rédemption du monde. C'est ça le mystère de compassion. Toute l'écriture, hein, toute la Bible, est une révélation pour montrer que le nœud, c'est le sabbat. Le nœud gordien, la clé de voûte, c'est le sabbat. Parce que par amour, le roi fraternel de l'univers devient Dieu lui-même dans le mystère de compassion. Transverbération. On avait vu ça la dernière fois. Et pour aller encore plus loin, parce que ça, c'est pas le but, c'est le moyen, c'est notre mission sacerdotale. Royal, c'est notre mission de médiateur, d'instrument de Dieu. Et si, vous voyez bien que si on est instrument de Dieu, on ne peut le faire que dans une très grande pauvreté. Regardez, Marie a vécu la transverbération au pied de la croix dans une pauvreté totale. Totale, évidemment. Et le Christ a été mort. Plus pauvre, tu peux pas. Donc voyez bien que la virginité et la pauvreté vont ensemble. Et bien sûr que dans le niveau le plus profond de la vertu de tempérance, de l'esprit de virginité, le plus profond de tout, cette attraction vis-à-vis de Dieu, cette attraction de Dieu, le Fils, dans le corps mort du Christ, mais même aussi dans le corps ressuscité du Christ, aussi dans le corps sensible du Christ, quand il vit, cette attraction, parce que c'est vraiment la virginité de l'amour du Christ est totale, hein. Elle est essentielle, elle est substantielle. Et pourquoi ? Parce qu'elle lui permet d'être... Il y a une transparence totale, il dit, et une soif intarissable d'être dans le sein du Père. Il y a une attraction vis-à-vis du Père qui est... C'est le niveau le plus profond, celui-là. Parce que dans la sensibilité du Christ, c'est cette vie qui est à l'intérieur de la très sainte Trinité qui s'empare de lui. C'est la virginité à l'état pur, ça. C'est les trois niveaux, vous voyez, les trois grands niveaux de l'esprit de virginité. Mais dans cette troisième, regardez quand même, comme c'est beau, ça. La virginité du Fils, elle est conjointe à quelque chose de très grand. Elle est conjointe à une troisième pauvreté. Et c'est la pauvreté de Dieu lui-même. La pauvreté de Dieu lui-même, parce que quand Dieu le Fils, quand l'intimité vivante est sans limite de Dieu le Fils, quand l'intimité vivante de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, quand cette intimité vivante ne cesse d'être attirée dedans, sa source, qui est le Père. Et c'est une attraction qui est si forte qui l'anéantit. Mais si l'intimité vivante et éternelle de Dieu s'anéantit dans le Père, c'est l'intimité vivante du Père. Et du coup, il s'anéantit en même temps. Et ce double anéantissement produit dans un amour très grand cette pauvreté de Dieu. Cette pauvreté de Dieu, vous voyez, cette pauvreté de Dieu qu'on peut appeler la source de l'Esprit Saint. C'est pour ça que l'Esprit Saint, vous voyez, du point de vue de l'amour, est pauvre. Il est pauvre parce qu'il ne peut que d'être irrigué continuellement par cet amour mutuel du Père et du Fils. Cette attraction mutuelle où ils sont anéantis. Et lui, il s'abreuve de ça. Sans rien pouvoir donner dans l'ordre de l'amour que de la jouissance. De cette réceptivité. Cette réceptivité, c'est la signature de l'esprit de pauvreté, voyez, de l'humilité du Christ, dans l'esprit de pauvreté évangélique. Si on est... C'est extraordinaire, ça. Voyez, on vit en même temps cette attraction de Dieu, le Fils, vis-à-vis du Père, dans la sensibilité de Jésus, c'est l'esprit de virginité, et en même temps cette pauvreté, cette dans la jouissance extraordinaire du Saint-Esprit, qui se nourrit de l'anéantissement mutuel de Dieu, pour qu'il n'y ait plus que l'amour. Ça, vous voyez, vous n'êtes pas contemplatif, vous ne comprenez rien à ça. Hein. C'est évident que si on ne vit pas de l'esprit de virginité, comment pourra-t-on vivre de l'esprit de pauvreté ? Strictement impossible. Voilà pourquoi, vous voyez, Aristote avait bien vu la vertu de tempérance, mais la vertu d'humilité, il ne l'avait pas vue. C'est Aristote, la contemplation de la très sainte Trinité, c'est pas son truc. Hein. Vous voyez, Platon, vous voyez dans le banquet, qui on voit dans le banquet de Platon, on voit un moment la déesse surabondance, qui est un homme d'ailleurs très viril, magnifique, le beau, quoi, le surabondant, le riche, l'opulence, tout ça, qui rencontre une autre déesse, là, une fille des dieux qui est pauvre, la misère. Pauvreté, une misère. Mais les deux sont conjoints et de cette union est né l'amour. C'est beau, ça, vous voyez, ça c'est le mythe. Par le mythe, oui. Par le mythe, on peut sentir que l'amour vient de cette conjonction virginale, en fait, bien sûr, entre ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus pauvre. Et effectivement, l'humilité conjoint ce qu'il y a de plus grand et en même temps ce qu'il y a de plus misérable. C'est quand on se nourrit de ce qu'il y a de plus petit, de plus misérable en nous, de plus humiliant en nous, qu'on conjoint le ciel et la terre, et qu'on vit de la grandeur de Dieu pour l'éternité, et qu'on est semblable à Dieu. Mais dès qu'on est dans le jugement téméraire, l'arrogance, voyez, l'intempérance, etc., le contraire des vertus, c'est fini, je veux dire. Vous voyez ? C'est sûr. Alors, c'est marrant et c'est très extraordinaire de voir que saint Thomas perçoit bien que l'humilité est une petite vertu, toute petite vertu qui dépend de la modestie, laquelle modestie est une vertu conjointe aux grandes vertus de la tempérance, laquelle vertu tempérance est cardinale. Mais c'est vraiment la petite vertu, et bien c'est elle qui va tout faire, voyez. C'est la petite, c'est là qu'il faut mettre le doigt. Et Jésus, lui, et bien quand il a dit quelles sont les vertus qu'il a, lui, en tant qu'homme, il a dit, sachez que je suis doux. Douceur, c'est la grâce. Je suis la source de la grâce. Et humble de cœur. Donc la seule vertu que Jésus dit avoir acquis, c'est l'humilité. La seule. Il l'a acquise par sa passion, par la croix, par l'humiliation, par le mépris, en aimant ça. Et donc, la seule vertu par laquelle on peut se conjoindre au Christ, c'est l'humilité. La seule. Parce que sinon, on se conjoint au Christ par la foi, l'espérance, la charité, les dons du Saint-Esprit. Mais du côté des vertus, c'est l'humilité. C'est extraordinaire, ça. Mais aussi la douceur. La douceur, la mansuétude. La mansuétude, la douceur, c'est une des 20 vertus de la tempérance. Vous voyez, donc, quand même, c'est quand même à partir de la tempérance qu'on peut s'unir au Christ. On a les mêmes qualités que lui. C'est le premier niveau. C'est beau, ça, de savoir ça. Donc, aujourd'hui, c'était le but, c'était de regarder l'humilité un petit peu. Remarquez, ce sera vite fait. C'est, vous voyez, quel est le contraire de l'humilité? On approfondira la prochaine fois pour regarder les deux autres niveaux de la vertu d'humilité et qui s'inscrivent dans le conseil évangélique de l'esprit de pauvreté. Alors ça, c'est passionnant. Enfin, comme toujours, d'ailleurs. C'est l'esprit d'obéissance, l'esprit de virginité, l'esprit de pauvreté, c'est... Mais il faut commencer quand même avec l'humilité. C'est normal, il faut être cette humilité. Le contraire de l'humilité, c'est quoi? C'est le repli sur soi. C'est le repli sur soi. On est repli sur nous-mêmes, c'est quand on est psy. Voyez. Alors comment est-ce qu'on guérit du repli sur soi? On guérit du repli sur soi par des grandes respirations d'air frais. Oh, il faut sortir, il faut respirer physiquement. C'est vrai, on sait bien, on le sait bien. Une grande respiration d'air frais, sortir de... Là, c'est heureusement qu'il y a l'hiver de temps en temps, vous voyez, parce qu'on peut sortir dehors quand il fait bien froid, et puis, vous allez voir si vous êtes replié sur vous. Le corps a besoin de ça, vous voyez. On ouvre la fenêtre, la nuit, la fenêtre ouverte. Et psychologiquement aussi, il faut psychologiquement des grandes respirations d'air frais, pas d'air chaud. Psychologiquement, vous savez, Oui, bon, oui, il faut que je me console, je dois des consolations, des médicaments, des machins, des trucs. Non, pas de l'air chaud, il faut des grandes respirations d'air frais. Allez dehors, allez dehors de son monde psychologique pour ouvrir les fenêtres et oh, respirer, respirer, respirer ailleurs, quoi. Respirer ailleurs que dans le monde psychologique. Pour faire des actes d'adoration, pour faire des actes d'adoration et grandes respirations d'air frais pour sortir du repli sur soi psychique, psychologique, pathologique, hypochondriaque. Ça, vous voyez, le repli sur soi, ça c'est la caractéristique d'un monde qui ne connaît pas l'humilité. Et puis il faut une grande respiration d'air frais dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit vivant, dans mon cœur profond, dans ma contemplation lumineuse, si vous voulez, bon, dans ma liberté, quoi, dans le monde spirituel qui est le mien, dans mon humanité. Purement humaine, si je puis dire. Alors, il faut des grandes respirations d'air frais. Là aussi. Grandes respirations d'air frais, c'est quoi, les respirations d'air frais? Hein? Pas dans un monde purement humain. Mais faut se nourrir de la pauvreté spirituelle. La grande respiration d'air frais. C'est quand spirituellement, humainement, on a une souffrance. Vite, ouvrons la porte et la fenêtre de la souffrance pour faire rentrer l'air frais de la croix. Les grandes respirations d'air frais, c'est le mystère de la croix. Pour l'esprit humain. C'est transformer nos souffrances, on ouvre, en croix. On verra ça, parce que ça c'est très important. Il faut apprendre concrètement ça. Ça c'est quelque chose de très concret, ça. C'est très concret, vous voyez, parce qu'on a peur de mourir, on ne veut pas mourir. On ne veut pas. On ne veut pas mourir, on ne veut pas se détacher, quoi. On ne veut pas se détacher. Alors on s'attache à soi-même, on s'attache à nos idées, on s'attache on a des attaches intellectuelles, hein. On a des attaches terrestres, on a des attaches psychologiques. C'est pour ça que les gens sont psy, parce qu'ils sont attachés. Ils ont l'impression de vivre comme ça. S'ils souffrent plus, ils sont paumés. Hein. S'il n'y a pas de murmure à l'intérieur d'eux, ils sont paumés. Hein. Il faut qu'il y ait une critique, il faut qu'il y ait un murmure. Hein. Le murmure, c'est la signature de l'orgueilleux. Le jugement téméraire, l'arrogant, le redresseur de tort. C'est pas la pauvreté, c'est pas l'humilité, ça. C'est quelqu'un qui est replié sur lui-même et qui n'est pas détaché. Vous voyez, intellectuellement, on est attaché à certaines manières de voir. On est attaché à Maurice Clavel. Je trouve ça formidable, ce type. Je suis attaché à Maurice Clavel. Moi, je me rappelle quand j'avais été à Fribourg, alors le professeur de métaphysique, sachant que j'aimais beaucoup Maurice Clavel, n'est-ce pas? Alors, parce que c'était une espèce de Maurice Clavel, et bien du coup, il s'est farci le dernier livre posthume de Maurice Clavel, et puis il en a parlé un petit peu dans son cours de métaphysique. J'étais fou. J'étais fou. Et il a vu que j'étais pas content. J'étais fou parce qu'il disait des vérités. Il lui disait, voilà ce que dit Maurice Clavel. Et moi, j'étais fou. Je dis, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça, il n'a pas pu dire ça. Et on a des attaches intellectuelles, vous voyez. Et du coup, on n'accepte pas la vérité, la réalité. On a des attaches terrestres, on a des attaches sensibles, on a des attaches sentimentales, on est attaché à des choses terrestres, on est attaché, quoi. Et on est replié sur nous-mêmes. Le repli sur soi, le murmure, ça, faut se battre. Hein. Là, c'est le premier niveau, hein. Faut se battre. Hein. Ça, on est... Mais quand même, on a quand même des clignotants, on les verra, hein, la prochaine fois. Hein. Mais c'est sûr, le repli sur soi,
tout de suite, hein, des grandes respirations d'air frais. Voilà, ça oui. Ah, vous sortir un peu. Vous voyez, et on va se nourrir donc du mystère de... On va se nourrir de la... de Jésus crucifié. Ça, c'est la grande respiration d'air frais. Parce que du coup, on n'aura plus peur de la mort. Parce que si on respire, c'est à chaque fois que on a un repli sur nous, ou quelque chose qui fait que, oh, encore, il m'a fait ça. Oh, bon, tiens, t'as une blessure, très bien. Vite, respiration d'air frais, Jésus crucifié. Oh, ben du coup, parce que dedans, il y a quelque chose qui surgit, un grain de blé moulu ensemble, c'est Jésus crucifié. Ah, c'est dedans moi que je me nourris de Jésus crucifié. C'est la respiration d'air frais qui me fait sortir de mon... Vous voyez, tu prenais un grand coup dans le ventre, ouf, tu te replies sur toi, quoi. Spirituellement, c'est pareil. Vite, ouvre, Jésus crucifié. Ah, c'est le contraire, c'est plus repli sur soi, c'est l'humilité qui vient. Et en même temps, tu te nourris de Jésus crucifié, du coup, tu n'as plus peur de la mort. Tandis que quand tu es replié sur toi, tu as peur de la mort, tu t'attaches à cette vie sensible, à cette terre, tu ne veux pas mourir. Il y a certaines maladies qui viennent de là, de maladies modernes. Hein. Les gens meurent de quoi, hein, de quelque chose qui fait qu'on ne veut pas mourir. Hein. Mais comment se le... pas. Vive de Jésus crucifié. Oui. Ça, c'est quelque chose de très beau, très grand. C'est vraiment la source de nos actes qui vont faire naître en nous l'humilité. Et qui font qu'on ira 100 fois plus vite. Et c'est pour ça que, vous voyez, ça choque. Je sais que ça choque quelquefois quand on fait la prière en disant, voilà, je renouvelle la grâce de mon baptême, je renonce à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions, à tout ce qui conduit au péché, et je m'attache à Jésus-Christ crucifié pour toujours. Alors, je sais qu'au début, les gens, même les cathos, hein, les cathos intellectuellement corrects, pourquoi être attaché à Jésus crucifié, c'est maso, ça. Non, on est attaché de l'intérieur, hein, de l'intérieur, à Jésus crucifié. C'est notre nourriture, c'est notre respiration d'air frais. Je vous assure que ça, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. Et on va faire des actes où on va respirer de l'intérieur ce que Jésus crucifié respire. Il spire l'Esprit Saint. La fraîcheur, toujours rajeunie, de l'amour de l'Esprit Saint, qui est continuellement irrigué par l'amour du Père et du Fils, toujours neuf. Éternellement, à l'infini, sans limite, et simple, parfait, oh, abondant. Ça, et alors on se dit, mais vivement que j'aille, vivement que, hein. Et pas dire, non, j'ai une flébite, je vais peut-être mourir. Et si t'as une flébite, c'est parce que t'as des jarrettes qui gonflent trop. C'est celui qui gonfle, quoi. Non, c'est phallite. Ah bon, bah, c'est... Méningite, ah bon, ça va bien. Ah, écoutez, franchement, ah, voilà, donc il faut bien l'humilité, voyez, c'est le juste milieu entre l'orgueil, l'excès de soi-même, voyez, et l'insignifiance. L'insignifiance. C'est quelqu'un qui est insignifiant, c'est pas bien. C'est l'excès de soi-même, mais dans le sens opposé. Et les deux sont des péchés mortels. Être insignifiant, c'est... Non, l'humilité, c'est grand. C'est en même temps la plus grande petitesse, mais... Vous voyez, c'est ça, c'est l'humilité. C'est pour ça d'ailleurs que l'humilité est quelque chose de très fort, hein, parce qu'elle embrasse tout. Hein. Elle embrase tout et elle embrase tout aussi. c'est sûr. C'est un juste milieu. Faut pas être insignifiant. Faut pas être bête. Mais faut pas être orgueilleux non plus. Parce qu'être orgueilleux, c'est également être bête. C'est être faux. C'est la fourberie d'être orgueilleux. Et c'est de l'insignifiance, c'est de la mort. Donc on ne peut pas aimer, choisir la mort. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, vous voyez. Alors, je ne veux pas prendre de risques, vous voyez. C'est extraordinaire, les gens ont peur, alors du coup, ils ne veulent pas prendre de risques, du coup. Hein, on ne va pas dire certaines choses, on pourrait avoir une amende, vous comprenez. Enfin, on ne sort plus, vous voyez. Notre vie, rien, quoi. Et puis on va mourir avec ça, n'ayant rien fait, n'ayant rien produit, n'ayant aucune vertu, dans nos mains, rien à présenter à Dieu. Non, c'est pas possible. Dans nos mains, on doit présenter Dieu lui-même à Dieu. Et Dieu est simple. Et c'est en toute simplicité, dans notre humilité, qu'on présente Dieu à Dieu. Vous avez compris. On prend Dieu en nous, et Dieu en nous, en s'offrant nous-mêmes, c'est Dieu qu'on offre à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Parce que Dieu aime Dieu. Et il aime ceux qui sont unis à Dieu. Et il n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas le péché. Il ne peut pas aimer le péché. Tu ne peux pas obliger Dieu à aimer le mal. Pourquoi l'humilité devient vraiment l'axe, l'ascenseur, la profondeur. Ça va dans le fond de la cave et ça va au sommet, la terrasse. C'est extraordinaire ça. Et c'est le plus facile à acquérir. C'est la vertu la plus facile à acquérir. Parce que franchement, on n'a pas de quoi être orgueilleux. On n'a pas de quoi être fier, hein. Ça. Tout le temps murmurer, critiquer, avec nos jugements, machin, revendiquer, dire quand même, comment il m'a parlé, qu'est-ce qu'il m'a fait, bah quoi, oh. C'est terrible, quand on est fêlé, c'est évident, on est fêlé, c'est évident, vite. Le spécialiste de l'humilité, c'est Saint Joseph. C'est Saint Joseph. Saint Joseph, c'est vraiment le pauvre par excellence. Alors. Et le docteur de l'église de l'humilité, c'est Saint Benoît. Alors, vous verrez dans Saint Benoît, la règle de Saint Benoît, si vous voulez acquérir un petit peu les actes, les 12 actes que vous pouvez faire pour nourrir en vous la vertu d'humilité, vous lisez la règle de Saint Benoît, c'est très court, c'est celle qu'on lit dans tous les monastères du monde, tous les soirs. Dans tous les monastères du monde, tous les soirs, on lit un morceau de la règle de Saint Benoît. Dans une famille chrétienne, ce serait normal que tous les soirs, on lise un morceau de la règle de Saint Benoît. Pourquoi ? Parce qu'une famille chrétienne, c'est une communauté chrétienne. Et donc on doit se nourrir de la doctrine pour avoir la vertu de studiosité. C'est-à-dire, non, je ne veux pas m'intéresser à ce que dit la doctrine de l'Église. Saint Benoît, je m'en fiche. L'humilité de Saint Benoît, je n'en ai pas besoin. Je suis très au-dessus de l'humilité de Saint-Benoît, puisque je comprends tout. Voilà. J'ai pas besoin. J'ai même pas besoin de savoir que Saint-Benoît parlait d'humilité. À quoi ça sert? Moi, je vis de Dieu directement. Oui, d'accord. Comment ça? Il y a des millions de saints qui se ne vont vers le Seigneur qu'avec la lecture tous les soirs de la règle de Saint-Benoît, toi, t'en as pas besoin, toi. Non, non, mais t'es au-dessus de tous ces saints, c'est évident. T'es très au-dessus, très, très au-dessus. Non, sans l'humilité, on ne peut pas. C'est pas compliqué. Alors, mais pour avoir des actes, pour avoir une vertu, on est en puissance d'humilité, hein. On est pauvre. Alors, on est lamentable. Ouais. Mais c'est pas. Donc, à cause de ça, on peut avoir l'humilité. Et l'humilité devient du coup une qualité qui va pousser dans le terreau de notre orgueil blessé, tout ça. Bon. Mais pour que cette humilité arrive, il faut qu'elle s'alimente du soleil. Et le soleil, ce rayon de ces gouttes de pluie. Vous voyez, et voilà. Et ça, c'est les actes. Il faut poser des actes d'humilité. Alors, c'est bien gentil, mais comment on fait pour poser des actes d'humilité? C'est quoi des actes d'humilité? Voilà, Saint-Benoît, c'est intéressant pour ça. Alors, les degrés d'humilité, on va le lire tout simplement. Hein. Premier degré, en fait, il y a 11 degrés d'humilité dans Saint-Benoît, mais je les ai rassemblés en 8 parce que j'ai trouvé que c'était plus sympa de le faire dans le Christ. Donc, c'est pour ça, vous connaissez mon amour des chiffres. Donc, 2, le Verbe de Dieu multiplié par 4, c'est-à-dire dans tout ce qu'il y a de plus basique dans la terre, hein, 4. Donc, 2 fois 4, 8. 4, c'est la croix. Hein. Donc, quand le Verbe assume la croix, c'est 8. Alors, il m'a semblé que ce serait bien de mettre tout ce que dit Saint-Benoît dans 8 degrés. Alors, c'est pour ça que j'ai mis 8. Saint-Benoît me pardonne. Mais j'estime que son affaire à lui est bien supérieure à mon amélioration, parce que c'est notre père quand même, Saint-Benoît. Bien supérieur, c'est évident. Le premier degré, c'est la crainte de Dieu. Et il faut avoir la crainte de Dieu. Faire des actes de crainte de Dieu. La crainte de l'enfer. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir la crainte de l'enfer? Mais écoutez, c'est très simple. Faites simplement une demi-heure de méditation sur l'enfer. Vous voyez? Mettez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Considérez le serpent, qui est Satan. Regardez ce qu'il y a là à l'intérieur. Considérez Mammon, avec sa rage flamboyante, une fournaise ardente, et rentrez à l'intérieur de Mammon pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Rentrez à l'intérieur de Belzéboul, s'il vous plaît. Baphomet aussi, si ça vous intéresse. Et si vous avez le courage, continuez. Hein? Puis ensuite, regardez le contexte. Regardez ce qu'il y a dans un trou. Essayez de demander à votre ange gardien de vous amener à l'intérieur du trou, là. Et rentrez dans l'étang du Tartare. Et plongez-vous bien dedans, l'étang du Tartare. Hein? Et regardez bien comme c'est chaud. Hein? C'est très chaud. Là, vous allez avoir besoin de respiration d'air frais. Hein? C'est très, très chaud. Et rentrez dedans. Regardez à quoi ça ressemble. Respirez l'odeur. Utilisez votre corps, hein. Utilisez votre imaginaire. Hein. Attention, tempérance, hein. Tempérance, humilité, tempérance, utilisez. Passez une demi-heure, allez, un quart d'heure, prends le contexte, et puis, voilà. Jusqu'à ce que vous soyez terrorisé. Attends, je ne vais jamais aller là. Écoutez les cris des damnés, cris de blasphème, de désespoir. De haine, vraisemblable. C'est écrit déchirant, quoi. Obstiné, éternellement, continuellement. Et ne dites pas, et considérez qu'il y a énormément d'êtres humains qui y sont, pour l'éternité. Énormément. Je n'ose pas vous dire combien. Alors, contempler. Et il faut qu'on ait la crainte, faire un acte crainte de l'enfer. C'est beau quand même, je trouve. Moi, j'ai peur d'aller en enfer. Moi, je veux pas y aller, hein. Oh là là, dès que je fais un péché. Je veux pas faire de péché, moi, mais tu te rends compte, si je fais un péché, puis je fais une course, paf, l'autre jour, j'ai un frère, il partait sur l'autoroute, et il y a quelqu'un qui est arrivé en face de lui, il avait passé la rampe, et il arrivait à 170 km à l'heure en face, l'autre. Pouf, impact, 330 km/h, parce que le père, Jean-Bernard, lui, il est assez vite aussi, hein. Là, il a eu son mort sur le coup. Attends. Dis-moi, je veux pas y aller. Je veux pas y aller, moi, en enfer, moi. Mais c'est un péché. Vite, je retourne à la grâce du ciel. Vite, une confession. Vite, quoi, oh ! Allez. Je veux pas rester une seconde de plus avec un péché, là. Je veux pas brouiller mon union avec Dieu avec la présence d'un péché, là. Alors que c'est facile que le sang précieux du Christ m'en lave immédiatement. La crainte de mettre à l'intérieur de Dieu quelque chose de sale que j'ai fait, vous voyez, quelque chose de pas beau, quelque chose de pas bien. Une espèce de murmure contre mon prochain, quoi. Ah, mais alors, je supporte plus, là, quoi. Je peux pas rester avec ça, c'est pas possible, vous voyez. C'est des actes, vous voyez, des actes de crainte du mal. De crainte de l'enfer, de crainte du péché, de crainte de Dieu, de crainte de troubler la présence de Dieu. C'est la délicatesse minimum, c'est le premier degré d'humilité, ça. C'est le premier degré. Le premier, le plus bas. Le plus facile. Ça, c'est facile, ça, c'est facile. Hein. Dis-moi, la crainte de l'enfer, je l'ai pas. Moi, je trouve ça, c'est pas l'enfer. Ah mais je vous assure qu'il y a plein de gens qui me le disent, hein. L'enfer, ben oui, l'enfer, c'est super, hein. C'est un train d'enfer, justement, moi j'aime bien ça. Dans les boîtes de nuit, on essaie de mettre, vous voyez. Et il ne faut pas croire, que personne n'y va. Je m'excuse, je ne devrais pas raconter ça, mais à un moment donné, quand j'étais jeune, il y avait cette boîte de nuit, là, de Grenoble, 5-7, je crois que ça s'appelait. Bon, il était quoi, 200 là-dedans, hein, 200 jeunes, hein. Et puis ça a flambé d'un seul coup. Mais attendez, un mois avant, la Vierge est apparue, hein, dans un lieu d'apparition que j'aime beaucoup. Et elle a dit, il faut prier, il va y avoir une catastrophe en France. Et en fait, c'était ça. Et après, la petite jeune femme, la Sainte Vierge était là, elle pleurait. Elle dit, voilà, il n'y en a pas un seul qui est sauvé sur les 200. Pas un seul. Pour l'éternité, hein. Pas un seul. C'est terrible. Mais pourquoi? Parce que dans ces boîtes, qu'est-ce qu'on fait? On fait des activités de consécration à Satan. Faut pas l'oublier. Il y a des messages subliminaux. Métallique, tada. C'est la concupiscence, c'est du machin. C'est ça qu'ils aiment, les cris assourdissants. Et ils s'aiment pas les uns les autres. Mais c'est ça qu'ils aiment, hein. Éternellement, ils continueront à être dans une ambiance de ce genre avec un peu plus, avec en plus du chaud. Mais justement, c'est terrible. Pas un seul. Ça m'a glacé le dos, moi, de savoir ça. Oui, il faut avoir de la compassion, de la miséricorde et de la prière virginale pour les hommes. Pour nous-mêmes, déjà, il faut avoir la crainte du mal. Avoir peur, par nos actes, de prendre trop de place. Avoir peur que Dieu ne puisse pas prendre toute la place. C'est beau, hein, que Saint Benoît dise, il faut commencer par ça. Premier acte, avec ses actes. Deuxième degré. C'est le désir de ne pas dominer son prochain, mais le désir d'être dominé par son prochain. C'est le deuxième degré d'humilité. Ce désir, voyez, d'être en dépendance de quelqu'un. C'est pas le désir d'avoir quelqu'un sous sa dépendance. Du coup, il n'y a plus de revendication vis-à-vis de... Si je dépends de quelqu'un, j'ai plus de revendication sur lui. J'ai une revendication sur quelqu'un qui dépend de moi. Tu aurais pu me le dire quand même, hein. Mais ce désir d'être sous la dépendance de quelqu'un, sous l'ombre de quelqu'un, d'être soumis, d'être sous l'ombre de quelqu'un, vous voyez, avoir un père spirituel, avoir un patron, avoir un patron, et oui, pour dans le boulot, j'aime bien parce qu'il y a un patron, je suis sous l'ombre de quelqu'un, là je suis obligé d'avoir, même s'il a tort, un minimum de vénération, j'aime bien. J'aime bien, c'est mon orgueil blessé n'aime pas, mais l'humble, oui, deuxième degré. Ah, déjà, par l'imaginaire, désirer ça, c'est un acte d'humilité. Par la prière, désirer ça, c'est un acte d'humilité. Et il y a des points de vue, il y a des événements dans notre vie très concrets, en disant, tiens, vous voyez, d'être soumis à notre prochain par amour de Dieu, hein. C'est pas parce que c'est pas pour le plaisir d'être soumis à quelqu'un. Non, non, c'est par amour de Dieu. Parce que le Christ, lui, s'est soumis à nous, qui sommes pécheurs. Quand on communie, le Christ se soumet à nous. Par amour pour le Père. C'est par amour pour le Père. Il se soumet à nous. Jésus. C'est extraordinaire, ça n'empêche. Et moi, j'ai le désir de pouvoir me soumettre à quelqu'un d'autre. L'obéissance, vous voyez, c'est bien pouvoir obéir intérieurement à quelqu'un. C'est pas extérieur, c'est intérieur, ça. Hein, c'est à l'intérieur, vous n'avez pas montré à l'autre, ah, vous savez, je vous suis soumis, hein, je ne dépends que de vous. Non, 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 c'est intérieurement. C'est intérieurement. Ce serait une grimace, sinon, hein. Sinon, ce serait une grimace, ce serait... Voilà, je me mets... C'est, vous savez, c'est le faillot, quoi. Vous voyez ? Le faillot, vous voyez ? Alors, extérieurement, il est soumis. Intérieurement, il dit... C'est pour pouvoir tirer la vache à lait. Vous comprenez ? C'est la grimace, ça. Non, c'est intérieurement et j'en dis rien. C'est chouette, non ? Allez, Saint-Benoît, il en a, hein ? Dans la tronche, là. Oui, parce que c'est pour être sous l'ombre de quelqu'un, par amour de Dieu, nous permet d'être... Du coup, intérieurement docile au Saint-Esprit. Il y a une docilité, du coup, à Dieu qui se fait, qui commence à apparaître. Voilà, c'est pour ça que la Vierge, toute immaculée conception qu'elle fut, elle était soumise à Joseph. Jésus était soumis à Joseph. C'est extraordinaire. Et Joseph, il était soumis à la loi, à la Torah, à la justice de Dieu, des hommes. Oui. Hypotasso, hein, en grec, être soumis, ça veut dire être sous l'ombre de quelqu'un, à l'ombre de quelqu'un, à l'ombre de quelqu'un d'autre. Sur le plan intellectuel, voyez, sur le plan du discernement, sur le plan du jugement, toujours être sous l'ombre de quelqu'un. Une parole, je vais donner une parole, oui, mais pour que ce ne soit pas... J'aime de plus en plus que ma parole soit sous l'ombre de quelqu'un d'autre que moi. Que je transmette la parole de quelqu'un d'autre que moi. Et que ce ne soit pas ma parole. Vous voyez ? Deuxième degré d'humilité. C'est beau, ça. Hein ? C'est très beau. C'est très beau. Troisième degré, accepter, quand cela se présente à nous, de rentrer dans l'obéissance héroïque. Ah oui, ça c'est le troisième degré d'humilité, c'est qu'enfin quand même, on va pouvoir, par un amour héroïque, produire une obéissance héroïque. C'est quand même pas mon boulot, monsieur. Monsieur le patron, c'est pas mon boulot de passer la serpillière dans les cabinets. Il y en a qui sont payés pour ça, moi sur mon contrat c'est pas marqué ça, hein. Oui, c'est pas marqué ça. Il y a des secrétaires qui sont pour ça. Moi, je suis cadre. Ah, oh, quand même, hein. Ah oui, alors, regardez. Alors non, eh bien, même le patron ne vous l'a même pas demandé. Vous voyez, il ne vous l'a même pas demandé. Mais même il ne vous l'a pas demandé, il n'oserait pas. Eh bien, vous le faites. C'est pas extraordinaire, ça. Dans la boîte, vous voyez, à Péchiner, vous voyez. Ouais, EDF, GDF. C'est pas beau, ça. Ça, si vous faites ça, là, c'est cato, hein, ça. Là, là, ça commence, hein. On commence un peu. Parce qu'on n'est qu'au troisième, il y a encore 8 degrés d'humidité derrière, hein. C'est on commence un peu à respirer ailleurs que dans l'esprit du monde, dans le vieux. Eh ouais. Ah, par exemple, au moment où nous faisons des actes qui nous répugnent naturellement. Ah oui, 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 ça c'est extraordinaire, ça. Ça c'est Saint-Thérèse d'Enfant Jésus qui dit ça. Saint-Thérèse d'Avila, elle le reprend à Thérèse d'Avila, mais c'est plus chouette dans Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand des actes qui te répugnent, tu profites au moment où tu es en train de faire un acte qui te répugne, tu te répugnes, hein. J'aime pas ça. Hein. Au moment où tu es en train de le faire, tu fais jaillir des actes de désir du ciel. Au moment où tu fais que c'est le plus bas, ce qui te paraît le plus bas à ta sensibilité, c'est à ce moment-là, au même instant, tu fais jaillir des désirs du ciel, des désirs d'amour, des désirs célestes. Ouais. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est des actes, c'est facile, hein, ça, tous les jours, vous pouvez... Tous les jours, on peut faire ça. Tous les jours, on peut. Vous voyez ? Si, des désirs de lumière, des désirs d'amour, des désirs du ciel, voilà, ou des désirs de la perfection absolue de Dieu. Voilà. Ah, à un moment, vous connaissez l'histoire de Sainte-Thérèse d'Avila. Bon, elle est au cabinet, et ça descend en bas. Alors, le démon, parce qu'il y avait des apparitions tout le temps avec Sainte-Thérèse d'Avila, hein, à partir du moment où elle est passée au-delà des cinquièmes, dans les sixièmes demeures, il y avait tout le temps des manifestations. Donc, le démon apparaît, tandis qu'elle était en train de faire descendre des choses en bas. N'est-ce pas ? Aux toilettes. Bon. Elle dit, oh, la fondatrice, la réformatrice, la carmélite, la madre de Dieu, la madre de Jésus. Ah, quand même. Et voilà. Et elle était là. Et pendant qu'elle se faisait humilier par l'apparition du démon, elle disait, ben voilà, c'est formidable. Oui, je suis humilié. Tout ça, ça descend en bas pour toi. Et mes désirs d'amour descendent en haut, montent en haut pour Dieu. En même temps. Voilà, qui s'est tiré. Allez, vous conjoignez dans les choses les plus humiliantes ou les choses les moments les plus... Vous voyez, ça faudrait mettre ce texte-là dans tous les cabinets. Alors, quatrième degré. Ah ouais, c'est sûr. Elle livre, l'humilité livre et ouvre résolument son âme à son confesseur. Oui, vous savez, bon, d'accord, on va dire des choses, mais... En général, vous voyez, parce que quand même le prêtre, on ne sait pas, il ne faut pas qu'il me juge quand même, vous comprenez ? C'est un homme, hein, donc en général, voilà, j'ai fait des fautes. Voilà, bon, oui, je demande pardon parce que j'ai vraiment péché contre les commandements, quoi, voilà. Voilà, merci mon père, si vous m'en jugez digne, de me donner absolument... En général, vous voyez, on va pas rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est quand même humiliant, quoi, faut pas, hein, pas montrer qu'on a tort, quand même, hein. Premièrement, la confession est invalide de plein droit. Et oui, parce que si à la confession vous rajoutez un péché d'orgueil, c'est au cœur même de la confession, ça veut dire que vous ne demandez pas pardon, hein. Non, il faut s'humilier, il faut en profiter. Il ne faut pas livrer ses pensées à n'importe qui. C'est vrai. C'est vrai. C'est un signe d'humilité, quelqu'un qui sait garder un secret. Et qui livre pas à la télé de sa vie privée, ses sentiments, ses blessures, comme on voit à la télé. Hein. C'est mon choix. Etc. Et puis tous ces trucs. Non, en pâture au public, on a une dignité quand même. Minimum de respect à avoir et un secret total à garder. On n'a plus du tout ce sens du secret, du respect. C'est sûr, les intempérants, ils n'ont pas ça. La psychanalyse, tu déballes tout. Pendant ce temps, le truc, le mec, il note. C'est fou. Freud, c'est terrible. Hein, bon, c'est pas, voyez. Mais pour le confesseur, c'est différent. C'est le fort interne. Parce qu'en confession, c'est à Jésus qu'on le dit. Et on passe par un instrument. Alors là, on doit tout donner à Jésus. Et on doit donner le plus avilissant. Parce que c'est dans le plus avilissant que surgira le sacrement. Donc, il ne faut pas donner le moins avilissant dans la confession. Il faut donner le plus avilissant. Et le reste, laisser tomber. Il faut choisir un seul péché, celui qui est le plus avilissant. Et le reste, dégager. On n'en parle pas, du reste. Ce n'est pas la peine. Parce que vous avez donné le plus avilissant, donc tous les autres seront dedans. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la peine de faire la liste. Vous donnez le plus avilissant. Ah non, je suis quand même pas... Voilà, vous voyez, ça c'est très important. Hein, c'est très important. Et en fait, quand saint Benoît dit ça, lui, il ne parle pas au confesseur. Il parle au père abbé. Au père abbé, qui n'est pas votre confesseur. Vous voyez, ou à votre père spirituel, qui n'est pas tenu par le secret de confession. Bon, mais moi je l'ai mis pour le confesseur. Parce que je sais que c'est impossible. Les gens, aujourd'hui, ils peuvent pas. Donc. Bon. Alors, cinquième degré. Cinquième degré. L'humilité se satisfait de tout ce qui lui arrive. Hein. Tout ce qui nous arrive nous met dans la joie. Eh oui. Que ce soit les choses qui nous gratifient. Un succès, ça y est, j'ai réussi à vaincre ma colère, donc, mais aussi je me suis laissé vaincre par ma colère. Une défaite comme une victoire me rend joyeux. Ça, c'est un degré, c'est le cinquième degré d'humilité. La défaite comme la victoire, je suis joyeux quand même, parce que je m'offre de toute façon à Dieu. Je suis de toute façon joyeux. La joie, et c'est comme la signature du pauvre, voyez. On le voit bien, vous savez, quand on a été dans les pays où règne la grande misère, c'est là où vous voyez les regards les plus joyeux.